Bienvenue pour ces émissions de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit sur notre site internet, revueconflit.com, notre boutique en ligne également, et puis en kiosque. Nous avons notre numéro qui est consacré au nucléaire, nucléaire à la fois vu sous l'angle de l'énergie et sous l'angle de l'armée, ce dossier nucléaire que vous pouvez donc retrouver en kiosque, et puis notre hors-série consacrée à l'armée de terre, lui aussi accessible en kiosque et dans notre boutique en ligne sur laquelle vous pouvez également vous abonner et trouver les anciens numéros, du moins pour ceux qui ne sont pas encore épuisés. S'ils sont épuisés, il vous reste la version numérique. Cette semaine, nous allons parler de littérature. Il est bon aussi, quand on aborde les sujets géopolitiques, de faire de la littérature parce que l'art, la culture est un élément important de la réflexion géopolitique, raison pour laquelle dans Conflit, nous avons une rubrique consacrée aux relations entre l'art et la géopolitique. Et puis la littérature permet d'entrer dans des paysages, la description des paysages, la description des villes, des lieux, est aussi une manière d'appréhender la géographie et d'appréhender l'histoire. Et pour évoquer cette semaine André Suarez, puisque c'est de lui dont il s'agit et dont nous allons parler au cours de cette émission, je reçois Antoine de Rony, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes professeur de lettres agrégé et vous avez consacré votre thèse à André Suarez. On va évoquer en quelques mots la biographie pour nos éditeurs qui ne l'auraient pas immédiatement à l'esprit. Et vous venez de publier chez Gallimard une anthologie de textes d'André Suarez qui s'intitule « Port et rivage ». Une anthologie qui est consacrée à des textes de Suarez de ses voyages, de ses vagabondages. On va y revenir. Texte sur la Provence, texte sur l'Italie, où cette notion justement de port et de paysage est extrêmement présente. Alors peut-être avant d'aborder le texte de Suarez en tant que tel, quelques mots sur André Suarez, sur son importance aussi dans l'histoire littéraire et ce qu'il a apporté.
Oui, tout à fait. Alors, bon, Suarez est né en 1868, il meurt en 1948, et par sa date de naissance, on voit qu'il est contemporain de Claudel, de Maurras, qui naissent eux aussi en 1868. C'est aussi un contemporain de Romain Rolland, d'André Gide, et c'est cette génération d'écrivains qui vient après l'effondrement du Second Empire et qui atteint la maturité à la Belle Époque. Suarez, c'est un écrivain qui est juif, qui est issu d'une famille de négociants d'origine portugaise établie en Italie depuis le XVIIIe siècle. Et c'est l'auteur de 100 livres, à peu près. C'est considérable. 100 livres qui appartiennent à des genres assez variés. On trouve de la poésie, du théâtre, des essais, des chroniques, des portraits littéraires, et des livres de pensée qui revêtent des dimensions historiques, politiques, philosophiques, etc. Donc c'est une œuvre assez variée, à vrai dire.
Et donc là, dans cette anthologie, vous êtes concentré sur ces textes de voyage. Alors, est-ce que le terme est juste pour désigner les textes que vous avez réunis ?
Texte de voyage, pourquoi pas. Il est vrai qu'il y a chez Suarez un goût pour le voyage, et notamment pour le voyage en Italie. Il voyage à 5 reprises en Italie. Pour ce qui est de la Bretagne et de la Provence, je parlerai plutôt de séjour, puisque ce sont des lieux où il a l'habitude de se rendre fréquemment l'été pour se reposer.
Alors justement, vous avez évoqué l'Italie, la Bretagne, la Provence et les paysages ou les sites qui reviennent dans cette anthologie, des régions assez différentes, enfin, du point de vue du climat, du point de vue des paysages, du point de vue de la mer également. Et on voit une appétence chez Suarez pour parler de la mer, pour parler des ports. Pourquoi est-ce que cela l'intéresse particulièrement? Et pour lui, quelle est la dimension littéraire ou esthétique qu'il voit dans les ports et dans les rivages qu'il fréquente?
Alors, c'est certain que la mer occupe une place privilégié dans la vie de Suarez et dans son art aussi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle a été organisé au mois de septembre un colloque autour du thème André Suarez, écrivain de la Méditerranée. Donc c'est qu'il y a des choses à dire à ce sujet, beaucoup de choses à dire. Et de même qu'on associe Maurras à Martigues ou Valérie à Sète, il faut associer Suarez à Marseille, sa ville natale, et plus largement à la Provence maritime qu'il n'a cessé de fréquenter tout au long de sa vie. La Provence maritime plus que la Provence de l'intérieur, comme c'est le cas pour Giono par exemple. Alors bien sûr, Suarez a habité Paris, l'essentiel de sa vie. Il s'y est installé à peu près autour de 1900, et c'est là que, dans la région parisienne du moins, qu'il meurt en 1948. Mais au cours de ce demi-siècle, Suarez est toujours resté fidèle à la mer d'où il vient, et il n'a cessé de séjourner, donc soit effectivement dans la région de Toulon, soit en Bretagne, soit dans le Cotentin, ce qui est un petit peu moins connu. Et de cette fréquentation assidue de la mer sont nés un certain nombre de textes dont j'ai souhaité faire une anthologie parce qu'il me semble que cela manquait. On a tendance souvent à republier les textes que Suarez a consacrés au portrait littéraire, à ses essais, à ses chroniques. Et il manquait, me semble-t-il, un ouvrage qui fasse vraiment connaître ces très beaux textes, ces espèces de prose poétique consacrées au paysage, à la mer, bien sûr, donc comme le titre de l'œuvre l'indique assez clairement, mais plus précisément aussi au port. Et il y en a un certain nombre, effectivement, qui défilent.
Quels sont les auteurs qui l'ont inspiré, s'il y en a d'ailleurs? Est-ce qu'il a des références littéraires pour la description de ces ports ou de la mer, des auteurs qui l'ont marqué par ses lectures?
Oui, alors, il est certain que Suarez est un immense lecteur. Sa capacité à lire les auteurs les plus anciens comme les plus récents est assez étourdissante. Et en même temps, Suarez évite toujours soigneusement de signaler les auteurs qu'il a lus et qui sont susceptibles de l'avoir inspiré. Alors, pour ce qui est effectivement de la littérature de voyage ou description de paysage, on pourrait citer un certain nombre de références plus ou moins anciennes, Chateaubriand, Loti, plus proche de Suarez, une de ses cibles privilégiées, je pense à Barès qui a écrit sur Venise notamment. Et on trouve d'ailleurs dans l'un des textes de l'anthologie une petite allusion méprisante à l'endroit de Barès. Il parle de ce petit notaire de Lorraine, allusion à demi voilée à Barès, qui a donc consacré, oui, plusieurs textes à Venise. Et Suarez s'inscrit en faux par rapport à cette œuvre. Et il veut effectivement écrire des textes tout à fait nouveaux qui renouvellent l'art d'écrire des paysages.
C'est un peu un lieu commun, Venise, pour les écrivains. Marcel Proust a été à Venise et a écrit de très belles pages. Paul Morand a consacré un ouvrage entier à Venise. Maurice Barrès, Suarez, c'est une sorte de passage obligé pour les écrivains du début du XXe siècle d'aller à Venise et d'écrire sur Venise.
Oui, peut-être. Et en même temps, Suarez connaît le piège qu'il y a à s'inscrire dans une tradition et d'être un simple maillon d'une longue chaîne. Et donc l'enjeu pour lui, c'est de se distinguer des autres. Alors il ne va pas à Venise pour le plaisir d'aller à Venise et de cocher la case que cochent avant lui bien d'autres écrivains. Il va à Venise parce qu'il voyage en Italie et que Venise l'attire pour toutes sortes de raisons. Et donc les textes qu'il consacre à Venise, alors c'est un tiers du voyage du condottiere, ou plus exactement, bon, le voyage du condottiere est constitué de 3 livres. Le premier est consacré à Venise, le deuxième à Florence et le dernier à Sienne. Et dans le premier livre consacré à Venise, il y a, on va dire, une moitié qui est consacrée vraiment à Venise et l'autre moitié aux villes de Vénétie. Et Suarez, effectivement, nous propose une approche assez personnelle. Il se met toujours en scène au fond d'une gondole, en train de rêvasser et d'être en amour avec cette ville qu'il féminise volontiers. Et puis, il a une approche qui n'est pas tout à fait banale, qui consiste à faire de Venise sa Grecque d'Orient, comme il le dit. Donc, la vision que Suarez propose de Venise me semble assez originale par rapport à celle des écrivains qui ont pu le précéder.
Qu'est-ce qui lui plaît ou qu'est-ce qui l'attire dans les villes qu'il visite? Est-ce que sont les bâtiments historiques, religieux, les musées? Est-ce que c'est la vie de la ville, les cafés, les restaurants? Qu'est-ce qu'il va chercher à décrire en priorité, la ville en tant que telle ou les habitants de cette ville?
Alors on trouve des évocations de paysages, on trouve des évocations de villes plus ou moins grandes. S'agissant des ports, il y a toutes sortes de ports, des ports de commerce, des ports militaires, des ports de pêche. Et au fond, ce qui l'attire, me semble-t-il, dans l'évocation d'un port ou d'une ville, c'est la vie. La vie qui s'y déroule avec ses habitants. Et quand on considère notamment le cas de Marseille, c'est tout à fait caractéristique de voir que Suarez, à l'égard de Marseille, exprime à la fois un immense amour et une forme de répulsion aussi. Le rapport à Marseille est assez complexe chez Suarez. Mais voilà, il aime rendre compte des marchés que l'on trouve sur le port, de la beauté des coquillages qui sont proposés au regard des promeneurs. Il rend compte de sa vie sous toutes ses formes. Il n'a pas nécessairement une approche d'esthète, une approche purement esthétique, une approche trop raffinée. Et je crois qu'il faut faire une place un petit peu à part à l'évocation des paysages bretons, où là, pour le coup, Suarez adopte beaucoup plus l'attitude d'un solitaire qui se promène dans la nature et qui rend compte de ses impressions, des sensations que font sur lui les saisons, la lumière déclinante, que sais-je encore.
Est-ce que dans sa démarche littéraire, il y a une volonté esthétique ou peut-être un aspect de reportage aussi, de décrire ce qu'il voit pour qu'il laisse une trace pour le futur?
De reportage, je ne suis pas sûr que le terme aurait plu à Suarez, lui l'ennemi absolu des journalistes. Il y a une volonté esthétique en ce sens que ce qu'il écrit doit devenir œuvre d'art. Il y a une conscience très nette chez Suarez de ce que c'est que la création littéraire. Et quand Suarez consacre un texte à un paysage, ce n'est pas pour se divertir, ce n'est pas pour passer un bon moment, c'est effectivement pour laisser une trace à la postérité. Avec cette conscience, parfois, du fait que la page qu'il écrit est un témoignage sur le lieu qu'il visite, parce qu'il a le sentiment que ce lieu évolue, et évolue vers une modernité qu'il condamne. C'est assez caractéristique, là encore, s'agissant de la Bretagne, parce qu'il séjourne plusieurs mois à Bénodet au tout début du XXe siècle, en 1900, à l'été 1900 notamment, et il est convaincu que la Bretagne est en train d'évoluer vers quelque chose qui va la dénaturer, qui est contraire à ses traditions profondes, et il s'en désole. Et donc, pour Suarez, il s'agit de fixer par ses écrits cette Bretagne éternelle qu'il aime profondément et qu'il regrette de voir évoluer, alors que pour nous, en 2021, on a un peu le sentiment que la Bretagne de 1900, ça reste une Bretagne assez archaïque.
Qu'est-ce qu'il va faire en Bretagne? Qu'est-ce qu'il va rechercher? Pourquoi être allé en Bretagne, lui qui vient de Marseille?
La Bretagne, pour comprendre en fait le rapport de Suarez à la Bretagne, il faut remonter à son lien, au lien qui le relie à son frère Jean. Parce que Jean va devenir officier de marine. Il a préparé le concours d'entrée à l'école navale lorsqu'il était à Toulon. Et dès lors que Jean intègre l'école navale, il est élève officier sur le navire Borda. À l'époque, l'école était sur le navire Borda, ça a changé depuis. Eh bien, Suarez se passionne pour la carrière de son frère. Il lui écrit très régulièrement. Il vit par procuration en Bretagne. Et c'est donc une découverte par l'intermédiaire de son frère. Et ça va correspondre à la période où Suarez éprouve le besoin de se construire une identité propre qui est un peu à rebours de son identité généalogique. lui, le descendant de juifs négociants qui ont caboté pendant des siècles autour de la Méditerranée, lui souhaite s'ancrer dans une identité beaucoup plus celtique, chrétienne, originelle, mystique. Et donc, pour faire contrepoids à cet Orient méditerranéen juif, il va se créer des racines en Bretagne par le biais d'une possibilité que lui offre son ascendance immédiate, puisque sa mère était une enfant naturelle, et il y a donc la possibilité de s'imaginer des grands-parents ayant vécu en Bretagne.
C'est bien commode, quand on peut changer son passé ou le modifier. Et son frère décède assez jeune, d'ailleurs. C'était un des moments dramatiques de la vie de Suarez, que le décès de son frère.
Oui, effectivement. Alors, Jean Suarez décède en 1903, en novembre 1903, d'un accident stupide. Il est heurté par un train de marchandises sur le port militaire de Toulon. Et donc Suarez, lorsqu'il apprend la nouvelle, est extrêmement choqué par cette tragédie. Il va mettre du temps à s'en remettre. Il consacre d'ailleurs un livre à la mémoire de son frère, sur la mort de mon frère, qu'il va envoyer à Claudel. Et pour l'anecdote, c'est ce qui va d'ailleurs être à l'origine de l'amitié littéraire de Suarez pour Claudel.
Alors, on a évoqué la Bretagne, il y a l'autre grande passion, c'est l'Italie. Pourquoi cet amour de l'Italie? Alors, on peut comprendre quand on vient de Marseille et de la Provence, ce n'est pas très loin, donc, et puis l'Italie a beaucoup de charme, mais malgré tout, il y a quand même un lien particulier qui l'unit à l'Italie et il y revient régulièrement.
Oui, exactement. Alors, bon, les liens, je les ai un petit peu expliqués au début, c'est lié à ses origines familiales. La famille de Suarez, d'origine portugaise, s'est installée en Italie au XVIIIe siècle. Pendant un siècle, la famille Suarez va vivre à Livourne, dont, au passage, Suarez ne parle strictement jamais dans Le Voyage du Condottiere, ce qui n'est quand même pas banal. Et le père de Suarez naît dans la ville de Gênes, dont il est question dans un chapitre de l'anthologie. Il y a d'ailleurs des traces de ces origines italiennes dans l'enfance de Suarez, puisque son père lui lit volontiers lui récite plus exactement même des passage entier tiré de la Divine Comédie de Dante. Plusieurs domestiques de la famille Suarez sont d'origine italienne et parlent italien. Et l'italien est la seule langue étrangère que Suarez avoue avoir pratiqué sans trop de difficultés. En fait, Suarez lit facilement beaucoup de langues, mais il n'a pas beaucoup de prédisposition pour s'exprimer en anglais, en allemand, en espagnol, ou dans d'autres langues. En revanche, l'italien, il le parle. Et donc, il était assez naturel que Suarez ait l'idée de voyager en Italie. On recense 5 voyages, 1895, 1902, 1909, 1913 et 1928. Le premier voyage, il faut peut-être en dire un mot très rapide, parce que c'est un voyage assez étonnant. C'est un voyage que Suarez effectue à pied ou dans des charrettes de maraîchers. Parce qu'il n'a aucun argent, et donc c'est un voyage presque de bohémien, jusqu'en Sicile. Et pour Suarez, c'est l'occasion de découvrir, bien sûr, la terre de ses ancêtres, mais aussi, et peut-être surtout, la terre des arts, par excellence. Et il y a une ville dont il n'est pas question dans Ports et Rivages, c'est Rome. Et Rome est une ville que Suarez a bien sûr visité à plusieurs reprises, mais qu'il va éviter de retrouver dans son dernier voyage en 1928, tout simplement parce que c'est la montée du fascisme et que Suarez se désole de voir le fascisme prendre toujours plus d'ampleur en Italie. Il sait ce que Rome est devenue, il sait que la Rome de 1928 n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait découverte en 1895, et il va donc soigneusement contourner Rome lors de son dernier voyage.
Le voyage du Condottiere, est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des ouvrages les plus connus ou les plus importants de Suarez?
C'est l'ouvrage le plus connu, me semble-t-il. C'est celui qu'on trouve le plus facilement en librairie, celui qui est édité en livre de poche. Et effectivement, quand on connaît un petit peu Suarez, on connaît en général Le Voyage du Condottiere, et quand on connaît un deuxième titre, on connaît en général Vue sur l'Europe, c'est-à-dire ce texte qui réunit des articles politiques virulents à l'encontre des totalitarismes, en priorité le nazisme, mais aussi le communisme et le fascisme.
Et c'est un ouvrage, enfin le Voyage du Condottiere, qui a paru en plusieurs années, qui s'est fait, qui n'est pas abouti d'un coup, il a retravaillé.
Oui, c'est un peu comme les fables de La Fontaine, qui mettent 25 ans à être complètes. Avec Le Voyage du Condottiere, nous avons une jeunesse qui s'étale sur une vingtaine d'années. Le premier volume, Vers Venise, date de 1910. Les deux autres volumes, donc Fiorenza et Sienne la bien-aimée, paraissent en 1932. Et il faut effectivement que, entre 1910 et 1932, Suarez retourne en Italie pour se remettre un petit peu en tête un certain nombre de choses. C'est la raison de son dernier voyage en 1928.
Quel lien entretient-il avec la peinture, avec les peintres italiens essentiellement, mais pas uniquement? Et est-ce que la peinture influence ses écrits, notamment les descriptions de paysages?
Alors c'est une question centrale, à vrai dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'apport de Suarez à la peinture. Donc il y a deux aspects dans votre question. On pourrait faire toute une émission sur Suarez et les peintres italiens. D'ailleurs, je signale au passage un livre tout récent de mon ami italien Giovanni Dottoli qui a publié chez l'Harmattan un livre où il a réuni les textes que Suarez a consacrés aux peintres italiens. Et donc la liste est longue de ces peintres que Suarez évoque. Et c'est évidemment une relation assez passionnée, ce qui n'empêche pas certaines pages d'être très, très agressives. Parce que Suarez, c'est tout ou rien. C'est comme le dit Catulle, Odi et amo, j'ai et je aime. Et j'aime, pardon. Et donc, il y a des pages qui sont effectivement enthousiastes pour certains peintres et d'autres pages qui sont très critiques. La peinture est un modèle pour Suarez et l'écriture doit tendre vers ce modèle. Il y a dans l'anthologie Ports et Rivages certains signaux qui en témoignent. Je pense notamment à une page sur la Bretagne où est évoqué le peintre Vernet, qui est connu pour ses peintures marines où le ciel occupe une place considérable. Donc on voit bien que Suarez tente d'adapter en littérature l'expérience de Vernet. Et puis on a aussi un modèle tout à fait différent avec une autre page de ces chapitres consacrés à la Bretagne, où cette fois-ci le modèle c'est l'estampe japonaise, voilà, qui est plutôt inattendu.
Mais on voit finalement à chaque fois un goût du voyage ou de l'ailleurs, enfin de ces cultures orientales qui peuvent l'influencer.
Oui, bien sûr.
Pour les estampes japonaises.
Suarez est curieux de tout. Il est curieux de la culture européenne qu'il connaît parfaitement bien. Et il est aussi curieux, effectivement, des cultures asiatiques, ce qui s'observe non seulement dans son goût pour les estampes japonaises dont on vient de parler, mais aussi pour la poésie japonaise. Et lui-même publie plusieurs recueils poétiques qui prennent modèle sur les expériences japonaises, notamment celle du haïkai.
En début d'émission, quand vous avez présenté ces textes, vous avez dit que ça avait une forme de poème en prose. Est-ce que c'est quelque chose qu'il cherche à donner, justement, dans ces textes, c'est-à-dire l'aspect poétique, le travail de la langue, pour, un petit peu à le modèle de Baudelaire et du Python de Paris, faire une sorte de Python de Venise ou de Marseille?
C'est-à-dire que Suarez se considère comme un poète, toujours, même quand il écrit des textes en prose, même quand il écrit des textes de nature politique, des textes pamphlétaires, quel que soit le type d'écriture qu'il utilise, il se considère essentiellement comme un poète, c'est-à-dire donc, au sens étymologique du terme, un créateur. Alors s'agissant de ces textes consacrés au paysage, au voyage, bien sûr que le souci de Suarez est de créer des textes avec une langue aussi pure que possible, aussi musicale que possible, et le thème des paysages s'y prête merveilleusement bien. Et donc il faut être sensible à la qualité de la langue de Suarez. La langue de Suarez est toujours un délice, mais appliquée au paysage et au voyage, je crois que le délice est vraiment redoublé. Il y a un travail extrêmement soigné qui, en même temps, sous la plume de Suarez, c'est assez naturel chez lui, un travail sur les rythmes, sur les sonorités, sur la syntaxe aussi.
Est-ce qu'on a dans son œuvre un élément sur la lumière, sur le soleil ou les ciels? Parce que la Provence ou l'Italie sont des terres de lumière, ça a beaucoup influencé les peintres. La Bretagne aussi a une luminosité particulière. Est-ce que c'est quelque chose auquel il a été sensible?
Oui, bien sûr. Suarez est très sensible aux saisons et Suarez est très sensible à la lumière, effectivement. Alors, la lumière de la Bretagne n'est sans doute pas la même que la lumière de Provence, et il y a pourtant dans les chapitres consacrés à la Bretagne un chapitre en particulier tout à fait étonnant où Suarez rend compte d'une expérience mystique de chaleur et de lumière sur une plage au mois de juillet, une espèce de panthéisme qui s'affiche, de fusion avec à la fois la chaleur et la lumière. Suarez dit même qu'il devient la lumière. Il a le sentiment que son corps se transforme sous l'effet de la chaleur et de la lumière et qu'il finit par se dissoudre dans la nature. On a d'ailleurs des pages un petit peu similaires relatives à la Provence, mais on s'y attend davantage. Donc oui, bien sûr, Suarez est extrêmement sensible à la lumière et la plupart des chapitres qu'il nous propose sont précédés d'une mention faisant référence soit à la saison, soit à l'heure du jour où il choisit d'amorcer sa description.
Si on reste sur la description des ports, il y a des ports modernes qu'il décrit, Gênes par exemple, Marseille, et puis il y a des ports plus historiques ou des sites archéologiques, je pense notamment à Ostie. Malgré tout, ce sont des choses qui l'attirent aussi, c'est-à-dire qu'il... Il va aussi décrire ou présenter des ports où la vie a eu lieu et où elle a un peu disparu maintenant.
Oui, alors dans l'anthologie, on trouvera deux ports antiques, le port d'Ostie, le port de Ravenne. Donc ce sont des pèlerinages sur des lieux historiques. Et bien sûr, Suarez, qui est absolument nourri d'antiquité, ne peut pas passer à côté de ces étapes. Simplement, pour le lecteur, c'est un peu une surprise, parce qu'on pourrait imaginer que Suarez, en pèlerin de l'art, va vénérer ces lieux que l'on associe bien sûr à l'Antiquité romaine. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Et à Ostie, Suarez découvre des ruines qui ne lui parlent pas, ou plus exactement, qui suscitent en lui des évocations extrêmement négatives. Ostie, c'est le port antique absolument cosmopolite, un port vulgaire, un port sans aucun intérêt sur le plan artistique. Et du coup, le passage par Ostie dérive sur autre chose que l'évocation de l'Antiquité romaine. C'est la rencontre d'un essaim de vipères qui lui fait horreur et qui provoque sa répulsion. Et à Ravenne, c'est un petit peu autre chose, il y a une méditation sur la fin de l'Empire romain, qui effectivement n'est plus que ruine, et sur les ruines de l'Empire romain, c'est la naissance de l'art chrétien, avec ces mosaïques qui font aujourd'hui encore bien sûr la célébrité de Ravenne.
Qu'est-ce qui fait l'aspect spécifique de Suarez par rapport à d'autres écrivains? On évoquait Venise tout à l'heure, où beaucoup d'autres écrivains sont passés et ont décrit. Ostie, Rome, c'est pareil, ça a aussi suscité beaucoup de pages de littérature, et d'ailleurs il y a beaucoup d'anthologies qui ont été publiées sur les voyages en Italie ou sur Rome décrit par les écrivains. Qu'est-ce que Suarez a de particulier? En quoi est-ce qu'il apporte sa touche, sa patte, qui fait que on peut dire que c'est une page de Suarez et pas une page d'un autre écrivain?
D'abord, Suarez met toujours en jeu sa subjectivité. C'est-à-dire qu'il ne vient pas en docteur de l'histoire de l'art pour nous parler d'un site. Il met toujours en avant son expérience personnelle. Et à ce titre, chaque page de Suarez est nécessairement unique, puisque c'est lui qui a vécu cette expérience-là dans un lieu donné, à un moment donné. Ensuite, je dirais qu'il vient dans ces lieux avec ses convictions idéologiques et que sous sa plume, effectivement, on voit jaillir un certain nombre de ses idées maîtresses. Et j'essaye de les mettre un petit peu en avant dans la préface de l'anthologie. Et parmi, effectivement, ces idées directrices, il y a l'opposition entre une antiquité romaine, on l'a dit avec Ostie et Ravenne, qui est repoussée, rejetée avec vigueur. Au contraire, la célébration d'une antiquité grecque qui est tout à fait idéalisée. Et là, je pense au texte qui évoque les temples grecs de Sicile. Et puis, il y a aussi un autre couple antithétique. C'est celui qui oppose l'Orient idéalisé de Venise, et éventuellement de plus loin encore, et puis tout simplement l'Afrique, celle qu'on devine depuis les rives de Sicile.
Alors il y a ces écrits, il y a ces pages. Suarez a aussi entretenu une grande conversation épistolaire avec un grand nombre d'écrivains de cette période, 1920-1940. Il a également été un des collaborateurs de la NRF, la Nouvelle Revue, Nouvelle Revue Française. Est-ce qu'il y a un lien, enfin, la manière dont il a contribué à éditer des textes, dont il a aussi contribué à faire connaître des écrivains de son époque, est-ce que ça l'a influencé dans ses voyages, dans sa manière d'écrire également, ou est-ce qu'il s'est resté hermétique avec d'un côté son style propre et puis de l'autre son travail d'éditeur ou d'animateur de revue?
Je crois que Suarez illustre exemplairement le titre d'un ouvrage célèbre de Julien Gracq qui est « En lisant, en écrivant ». C'est-à-dire que l'activité de lecteur est inséparable de l'activité d'écriture. Et en ce sens, Suarez écrit autant qu'il lit, il lit autant qu'il écrit, et les influences sont bien sûr nombreuses. Il cherche toujours à éviter de laisser transparaître ses influences, mais elles sont là, bien évidemment. Et oui, il y a un dialogue constant avec les écrivains de son temps, par le biais, bien sûr, d'un certain nombre de correspondances. Le nombre de correspondances célèbres de Suarez est assez astronomique. Mais pour autant, y a-t-il des complicités littéraires? Pas beaucoup, à vrai dire. Parce que Suarez, précisément, a toujours peur de la concurrence. Les meilleurs amis, dans le domaine de la création, ne sont pas des écrivains. Les meilleurs amis de Suarez sont des artistes, ce sont des peintres, des graveurs, des sculpteurs, parce que là, au moins, il n'y a pas de concurrence possible.
Voilà, on a l'art en partage, mais pas sur le même type d'art. Donc,
exactement.
Vous avez cité son ouvrage « Vue sur l'Europe » avec des textes politiques, au sens où il s'intéresse à la vie du monde dans lequel il est. Est-ce qu'il y a une dimension politique dans ses ouvrages proprement littéraires, notamment dans ses descriptions de paysages ou de ports, ou est-ce qu'il essaye de séparer la politique de l'esthétique, de la littérature?
Là, c'est une différence, je pense, avec Maurras, qui a toujours tendance, je crois, à teinter ses textes, quels qu'ils soient, même les plus esthétiques, d'idées politiques. Suarez fait bien la distinction. Et quand il parle de paysages, il parle vraiment de paysages, sans arrière-pensée. Les textes politiques de Suarez sont bien délimités, ce qui n'empêche pas, encore une fois, certaines catégories de pensée de se teinter parfois d'un arrière-plan un peu politique. C'est ce que je disais notamment dans toutes les références à l'Empire romain, qui en fait sont des références à l'actualité politique la plus vibrante, c'est-à-dire la montée du nazisme. Suarez établit des liens toujours plus étroits entre l'impérialisme romain et la montée des totalitarismes en Europe. Mais cela mis à part, il y a une séparation assez nette, me semble-t-il, entre le domaine politique et le domaine esthétique.
Alors André Suarez décède en 1948, il a 80 ans, donc il a eu une vie longue et bien fournie.
Absolument.
Quelle est sa postérité? Est-ce qu'il a eu des disciples? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont voulu reprendre un petit peu son style? Comment il a été lu et réceptionné après sa mort?
Suarez s'est toujours plaint de son vivant, de n'être pas lu, de n'être pas reconnu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Suarez n'est toujours pas suffisamment lu. En revanche, il faut vraiment dire et affirmer que du temps de Suarez comme aujourd'hui, Suarez n'a jamais manqué de grands admirateurs, des admirateurs qui sont des personnes de premier plan. Donc de son vivant, Suarez a été lu et grandement admiré par Claudel, par Gide, par tous ses contemporains, Peggy, etc. Des écrivains peut-être un peu moins célèbres ont aussi régulièrement exprimé leur admiration pour lui, je pense à Francis Jammes, à Valérie Larbaud, à Alain Fournier, etc., sans parler des artistes, des écrivains étrangers aussi ont noué des relations tout à fait particulières avec Suarez, je pense à Unamuno, à Stefan Zweig, à D'Annunzio aussi, pour ce qui est de l'Italie. Alors a-t-il créé une école? Non. Y a-t-il des écrivains qui se réclament de lui? Je ne crois pas. Suarez est assez unique, c'est difficile d'imiter son style. En revanche, il y a, je crois, de jeunes admirateurs qui sont devenus ensuite de grands écrivains et qui ont énormément lu Suarez avec l'espoir de devenir aussi grand que lui. Et à défaut de donner une liste longue qui serait un petit peu ennuyeuse, peut-être pourrais-je citer comme disciple numéro 1 André Malraux. Hein. André Malraux qui a rencontré Suarez dans les années 20. Il y a une correspondance qui est aujourd'hui détruite, qui a existé entre les deux hommes, et les points communs existent entre les deux écrivains. Qu'il s'agisse de textes esthétiques, on peut penser à l'intérêt commun des deux hommes pour Goya, ou qu'il s'agisse d'une conception de l'art qui passe par la figure du condottiere, qu'on pense aux conquérants de Malraux.
Merci beaucoup Antoine de Rony d'être venu au micro de Conflit pour présenter André Suarez et donc cette anthologie que vous avez publiée et dirigée, Ports et Rivages, une anthologie consacrée aux pages de littéraires de description de l'Italie, de la Provence et de la Bretagne chez Suarez, et qui est une manière de voyager à la fois dans l'œuvre de Suarez et puis également dans ses paysages ou ces villes que celui-ci a connues et fréquentées. C'est toujours aussi intéressant pour la géopolitique que de s'immerger dans la littérature et de s'immerger aussi dans les lieux grâce et à travers la littérature. Les références de l'ouvrage, comme chaque semaine, sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Et puis, vous pouvez également retrouver sur notre site nos anciennes émissions. Il y a près de 300 émissions à retrouver, dont certaines qui sont spécialement consacrées au programme du baccalauréat de première et de terminale. Elles ont été classées par thème. Vous pouvez ainsi les retrouver plus facilement. Et nous avons donc réalisé une quarantaine d'émissions en lien direct avec les programmes du baccalauréat, ce qui permet comme ça aux professeurs de préparer des cours et puis aux élèves de préparer des devoirs ou de préparer leurs épreuves de bac. Et puis pour ceux qui ne passent pas le bac ou qui l'ont passé il y a fort longtemps, c'est toujours des émissions aussi intéressantes à écouter avec des auteurs de grande qualité. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.